Voix Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, c'est Kiabadou en votre compagnie, il est 18h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition Le Monde aujourd'hui du vendredi 6 septembre 2019. Voici les titres. Robert Mugabe, mort à l'âge de 95 ans, a été élevé au rang de héros national avant ses obsèques au Zimbabwe. La date n'est pas encore fixée. À Kinshasa, le gouvernement a été investi, mais l'opposition a boycotté la plénière au Parlement. Au Burkina Faso, les avocats des généraux Diendéré et Bassolé font appel après leur condamnation. Brexit, Boris Johnson veut des législatives anticipées. Les députés adoptent un texte contre une sortie sans accord. Dans 10 minutes, rendez-vous avec l'actualité économique, puis les sports, mais tout d'abord le journal. L'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, héros de l'indépendance qui a dirigé son pays de 1980 à 2017, est décédé à 95 ans. Sa disparition a suscité une vague d'hommages à un champion de la lutte contre le colonialisme, Eric Manirakiza.
Le président Mugabe était l'un des derniers pères de l'indépendance en Afrique. Il est décédé aujourd'hui à Singapour, où il a été régulièrement soigné. Son successeur Emmerson Mnangagwa a salué une icône de la libération, un panafricain. Sa contribution à l'histoire de notre nation et de notre continent ne sera jamais oubliée, a-t-il dit sur Twitter. En Afrique et en Chine, les réactions sont unanimes. Un leader exceptionnel et un combattant de la libération et champion de la cause de l'Afrique contre le colonialisme, a réagi le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Pour son homologue zambien Edgar Lungu, M. Mugabe restera dans les annales de l'histoire africaine pour son combat pour la libération de l'Afrique et pour sa défense courageuse du continent. Le président namibien Hage Geingob a rendu hommage au révolutionnaire exceptionnel. John Magufuli de la Tanzanie dit que l'Afrique perd un dirigeant brave, déterminé, un africaniste qui a traduit dans les actes le refus de la colonisation. Uhuru Kenyatta, président kényan, a évoqué de son côté un homme d'État, un combattant de la liberté et un panafricaniste. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a rendu hommage au militant qui a combattu pour l'indépendance du pays face au régime colonial et a consacré la plus grande partie de sa vie au service du public. Le président Pierre Nkurunziza du Burundi a déploré la perte d'un vaillant artisan du panafricanisme. La Chine, très présente sur le continent et dont le président Xi Jinping fut en 2015 un des rares chefs d'État à effectuer une visite officielle au Zimbabwe, boudé par les dirigeants occidentaux, a salué un dirigeant politique et un dirigeant du mouvement de libération nationale exceptionnel. Le président Vladimir Poutine de la Russie a souligné que beaucoup de dates importantes dans l'histoire moderne du Zimbabwe sont liées au nom de Robert Mugabe. Monsieur Mugabe laisse un héritage mitigé. Pendant ce règne de 30 ans, l'un des plus longs sur le continent africain, il est passé du statut de père de l'indépendance et ami de l'Occident à celui de tyran qui a provoqué l'effondrement économique de son pays.
Nous reviendrons sur l'influence de Robert Mugabe dans la partie magazine avec l'Ivoirien Amara Issi, qui a bien connu le président du Zimbabwe. En République démocratique du Congo, le nouveau gouvernement a été investi ce vendredi. La majorité parlementaire a approuvé le programme du Premier ministre Sylvestre Ilunga, alors que les trois groupes parlementaires de l'opposition ont boycotté la plénière pour dénoncer la violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. À Kinshasa, la correspondance de Thierry Kabundi de Top Congo FM.
375 députés nationaux sur les 500 que compte l'Assemblée nationale ont approuvé le programme du gouvernement Sylvestre Ilunga. Avant cela, le Premier ministre a pendant 30 minutes répondu aux questions et préoccupations soulevées le mardi dernier par les élus nationaux. Ce programme va faire l'objet d'un suivi rigoureux et des évaluations périodiques, a promis Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Notez que la plénière du jour s'est déroulée sans les députés de l'opposition qui, quelques heures plus tôt, confirmaient leur boycott, évoquant une violation délibérée du règlement intérieur de l'Assemblée nationale par son bureau et par la majorité parlementaire. Composé de 66 membres venus des camps politiques de l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi, et de son prédécesseur, Joseph Kabila, le gouvernement Ilunga Ilunkamba est investi 7 mois après l'élection de Félix Tshisekedi comme président de la République. Kinshasa, Thierry Kamboundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Cameroun, nouveau report du procès au 8 octobre de Maurice Kamto, ses alliés politiques et quelques militants. Écroués depuis janvier, il devait comparaître devant le tribunal militaire de Yaoundé, correspondance d'Emmanuel Juntap.
L'audience de ce matin a débuté avec un incident. Christian Penda Ekoka, l'un des accusés, a été victime de malaise. Ses avocats ont attribué ce malaise aux conditions dans lesquelles se déroule le procès. 88 personnes sur les 91 attendues à la barre ont répondu à l'appel devant le juge du tribunal militaire. Maurice Kamto est arrivé à l'audience vers 10h temps universel sous bonne escorte. La salle est exiguë et mal aérée. Nous suffoquons, nous pensons que c'est ça qui a abouti au malaise, a déclaré à VOA Afrique l'avocat Michel Ntiale. Le site a été barricadé et les entrées filtrées. Plusieurs journalistes ont été tenus à l'écart de l'audience. La salle est trop petite, ont expliqué les responsables du tribunal militaire. De nombreux militants du MRC, le parti de Maurice Kamto, n'ont pas eu accès à l'enceinte du tribunal et ont manifesté leur mécontentement. Ils nous ont fait croire que le procès était public et lorsque l'on arrive, on nous dit que la salle est pleine, a regretté l'un des militants de ce parti. Le 8 octobre, l'audience va reprendre pour constater la présence de tous les accusés. On notifiera alors à certains parmi eux les procès-verbaux de leur interrogatoire. Maurice Kamto et les autres sont notamment poursuivis pour insurrection, hostilité contre la patrie et encourent une peine de mort. Yaoundé, Emmanuel Jountap, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, les avocats des généraux Gilbert Diendéré, Djibril Bassolé ont déposé un appel. Leurs clients ont été condamnés à 20 et 10 ans de prison après avoir été reconnus coupables d'avoir été les cerveaux du putsch manqué de 2015. Le pape François a quitté le Mozambique. Son message de paix trouvera un écho à Madagascar, pays tout juste sorti des crises politiques à répétition. À tous ceux qui ont vécu des histoires de violence, de haine, vous avez droit à la paix, a lancé le souverain pontife dans un stade de la périphérie de Maputo, où 60 000 fidèles l'ont écouté avec ferveur. Il est arrivé en milieu d'après-midi à Antananarivo avec des centaines de fidèles pour l'accueillir. Les Algériens de retour de vacances se sont particulièrement mobilisés pour le 29e vendredi consécutif de manifestation, le premier depuis la rentrée, depuis l'injonction de l'armée au président par intérim d'organiser une présidentielle d'ici la fin de l'année.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Boris Johnson a obtenu ce vendredi un répit de la justice britannique. La haute cour de justice à Londres a rejeté une demande d'annuler la suspension du Parlement. Le point avec Abdourahman Dia.
Une femme d'affaires et militante anti-Brexit avait intenté une action en justice contre la décision du Premier ministre de suspendre le Parlement. Gina Miller avait été soutenue dans sa décision par l'ancien Premier ministre conservateur John Major. Un juge écossais avait déjà opposé cette semaine un refus similaire. « Mon équipe et moi n'abandonnerons pas le combat pour la démocratie », a dit Gina Miller, qui avait déjà remporté une victoire judiciaire sur le Brexit en 2017. Décriée comme une manœuvre pour précipiter le pays vers un Brexit sans accord, cette suspension du Parlement pour 5 semaines jusqu'au 14 octobre a provoqué la fureur de l'opposition, mais aussi de députés conservateurs. Ils ont adopté mercredi une proposition de loi qui impose au Premier ministre de solliciter auprès de Bruxelles un nouveau report de 3 mois du Brexit jusqu'au 31 janvier 2020 si aucun accord n'est conclu avec l'Union européenne d'ici au 19 octobre. Un sommet européen est programmé les 17 et 18 octobre à Bruxelles. Boris Johnson a affirmé hier qu'il préférait être mort au fond d'un fossé plutôt que de demander un report du Brexit.
Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a jugé inacceptable la nouvelle réduction des engagements pris par l'Iran pour encadrer ses activités nucléaires. Téhéran a annoncé mercredi une nouvelle étape en faisant sauter toute limite à sa recherche et développement dans le domaine nucléaire. Les autorités iraniennes doivent dévoiler samedi le détail de ces nouvelles mesures. Mike Pompeo s'est toutefois dit confiant de pouvoir trouver une issue diplomatique. Par ailleurs, le chef de la diplomatie américaine a déclaré que le plan voulu par Donald Trump pour mettre fin au conflit israélo-palestinien sera dévoilé dans les prochaines semaines après de nombreux reports. Au Proche-Orient, justement, 2 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens ce vendredi lors de heurts à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé du Hamas, mouvement au pouvoir dans l'enclave palestinienne. Le Mexique a réduit de 56% depuis mai le flux vers les États-Unis de migrants sans papiers, en grande majorité originaires d'Amérique centrale. C'est ce qu'affirme le ministre mexicain des Affaires étrangères. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
En Guinée, l'entreprise HPX a signé ce jeudi un accord avec le gouvernement pour développer le gisement de minerais de fer du mont Nimba. HPX prendra des participations dans Nimba qui appartenait auparavant à BHP, Newmont Gold Corp et au groupe nucléaire français Orano. Le gouvernement détiendra également une participation avec la Société des mines de fer de Guinée. Une partie du fer produit à Nimba pourrait être acheminée à un port au Libéria avec une taxe supplémentaire entre 0,825 et 2 dollars la tonne. Au Togo, les exportations d'ananas ont rapporté 1,5 milliard de francs CFA l'an dernier contre 1 milliard de francs CFA l'année précédente. La production a connu une hausse de plus de 73,6% pour s'établir à 3300 tonnes contre 1900 tonnes en 2017. L'ananas compte près de 4000 producteurs. Le gouvernement togolais a inauguré en avril dans la préfecture du Zio une usine qui transformera 8 tonnes d'ananas par jour pour produire du jus destiné principalement au marché européen. Pour terminer cette minute éco, les réserves nettes de change de l'Afrique du Sud ont atteint 44,226 milliards de dollars en août contre 43,906 milliards de dollars en juillet. Les réserves brutes ont augmenté pour atteindre 49,948 milliards de dollars fin août contre 49,360 milliards de dollars le mois précédent. Selon la Banque centrale sud-africaine, ces opérations non réglées sont passées de 539 millions de dollars en juillet à 231 millions de dollars en août.
C'est le moment de notre page sportive qui nous est présentée ce soir par Yacouba Ouidraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Ikea, bonsoir à tous.
Une shortlist de 17 noms pour remplacer Paul Put à la tête du Sili National.
D'après le site Guinée Foot 224, une première shortlist de 5 noms composée de Pascal Janine, Didier Six, Daniel Bred, Denis Lavagne et Noël Tossi avait été proposée par la direction technique nationale. Cette liste n'a pas reçu l'approbation du public et de certains dirigeants fédéraux. Le président de la FEGIFOOT a alors demandé à ce qu'une rallonge soit faite. Sur les 87 candidatures reçues, la fédération a publié une liste de 17 entraîneurs. On y retrouve entre autres le Ghanéen Aknor Charles Kwablan, Kanfouri Lapé Bangoura de la Guinée, le Portugais Paulo Duarte, le Congolais Florent Ibengue, Kamel Djabour de l'Algérie, le Belge Georges Likens, l'Italien Claudio Ranieri, l'Ivoirien François Zawi. Les interviews débuteront le 12 septembre. L'État guinéen a également informé la Fédé qu'elle ne mettrait pas plus de 30 000 euros par mois pour payer le prochain sélectionneur du Sili National.
Nicolas Pepe, forfait pour le rassemblement de la Côte d'Ivoire.
L'attaquant d'Arsenal a déclaré forfait pour les prochaines rencontres amicales de la sélection face au Bénin et à la Tunisie. En raison d'une blessure, Nicolas Pepe est venu faire constater une blessure selon la Fédération ivoirienne, qui n'a pas précisé de quelle blessure il souffre. 17 joueurs sur les 26 appelés sont disponibles. Wilfried Zaha et Sérédier ont été excusés pour diverses raisons.
L'Afrique du Sud remet les pendules à l'heure à 2 semaines du mondial de rugby.
L'Afrique du Sud s'est largement imposée 41-7 face au Japon. Hôte de la prochaine Coupe du Monde en match amical, les Springboks se sont ainsi offert une revanche 4 ans après leur humiliante défaite face aux Japonais lors du mondial 2015. Les Sud-Africains, double champions du monde en 1995 et 2007, livreront le premier gros choc de la Coupe du Monde face à la Nouvelle-Zélande le 21 septembre. Ils affronteront également la Namibie, l'Italie et le Canada. Le Japon disputera le match d'ouverture le 20 septembre contre la Russie avant de se mesurer à l'Irlande, au Samoa et à l'Écosse.
Les 4 premiers tickets pour les quarts de finale du mondial de basket ont trouvé preneur.
La Serbie, l'Espagne, la Pologne et l'Argentine filent en quart. Dans le premier choc de cette seconde phase de groupe, les Espagnols sont parvenus à maîtriser les Italiens 67-60. Ils affronteront dimanche la Serbie pour la première place du groupe. Un peu plus tôt, les Serbes n'ont fait qu'une bouchée de Porto Rico 90-47. Dans le groupe I, la Pologne et l'Argentine ont aussi assuré leur présence en quart grâce à leurs succès respectifs contre la Russie 79-74 et le Venezuela 87-67. Polonais et Argentins s'affronteront dimanche pour la première place du groupe.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Eki Abadou, toujours en votre compagnie, nous passons à présent à nos dossiers du jour. Héros de l'indépendance, il a tenu le Zimbabwe d'une main de fer durant 37 ans. L'ancien président Robert Mugabe est décédé ce vendredi à 95 ans à Singapour, moins de 2 ans après avoir été renversé. De nombreux pays africains ont rendu un hommage appuyé et unanime au libérateur du Zimbabwe. Eric Manirakiza a recueilli la réaction d'Amara Issi, ancien ambassadeur ivoirien à l'ONU, qui a bien connu Robert Mugabe.
Je l'ai connu puisque j'étais ambassadeur aux Nations Unies. On avait affaire à tous les mouvements de libération, que ce soit la SWAPO, que ce soit l'ANC. Il était souvent avec nous et c'est un homme de conviction. Et il avait du courage. Il disait franchement ce qu'il avait à dire. L'une des figures proues de la lutte pour la décolonisation. Comme dit l'adage, même si on n'aime pas le lièvre, il faut savoir qui sait courir. En tout cas, c'est une personnalité, un patriote, un défenseur des droits des peuples africains, un père, un grand homme. Il a été un key player pour non pas seulement le Zimbabwe, mais pour tous les mouvements libération en Afrique australe. À l'époque, on était souvent avec lui, avec Makatini de l'ANC, Ben Gurirab, la SWAPO, des figures vraiment qui ont fait la fierté de l'Afrique.
C'était quel genre de personnalité et comment ses pairs l'ont considéré?
Je ne dirais pas qu'il était craint, mais disons que sa voix comptait. C'est le seul qui n'hésitait pas à mettre les pieds dans le plat quand il fallait le faire. Je crois pour lui, la dignité de l'Afrique passait avant tout. L'honneur, la dignité de l'Afrique, et je crois que c'était son credo et ça, c'est important parce qu'en fin de compte, ce sont des valeurs qu'on a perdues aujourd'hui. Dans toutes les réunions, il ne passait pas inaperçu. Qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, il a marqué son temps.
En ce qui concerne l'accord de Manchester House sur le financement de l'expropriation de la réforme agraire, des promesses britanniques non tenues.
Oui, c'est ce qui a motivé, disons, la nationalisation de toutes ces propriétés. Est-ce que ça a été une bonne chose? Mais en fin de compte, apparemment, les Britanniques étaient un peu responsables. Tout le monde dit que, bon, qu'en fin de compte, ils n'ont pas tenu leur engagement. On a vu les conséquences dommageables après pour les Zimbabwe. Donc, de part et d'autre, les responsables sont partagés. Le côté britannique n'a pas créé les conditions pour que vraiment les choses puissent évoluer telles qu'ils avaient été planifiées. Et d'un autre côté aussi, bon, cette nationalisation des propriétés qu'on a donnée à des gens qui n'ont aucune culture de fermier. Donc il y a eu des conséquences vraiment négatives sur l'économie du Zimbabwe. C'est dommage. Je crois que d'ailleurs cela a servi d'exemple à la situation en Afrique du Sud. Ce sont des leçons qu'il faut tirer de tout ce qui a été fait de positif et de négatif.
Quelle aura été l'erreur, disons, de Mugabe?
C'est avoir nationalisé les terres des fermiers blancs et le donner à des personnes qui n'ont aucune connaissance d'agriculteur. On ne peut pas improviser, il fallait les former. Ça n'a pas été fait, donc ça a été une erreur. Sous Ian Smith, la Rhodésie du Sud était vraiment le grenier de l'Afrique. Avec l'embargo, avec les sanctions, Ian Smith avait vraiment développé une économie auto-centrée, autonome, dans tous les domaines. Donc ils avaient quand même un capital à hériter pour avancer. Donc malheureusement, les choix politiques n'ont pas été conséquents. Et ce sont des erreurs qui ont été commises. Bon, l'Afrique du Sud peut-être va inspirer dans le cadre de la promesse faite aux Noirs de leur accéder des terres. Mais je suis optimiste parce que je ne dirais pas que le malheur est bon, mais en fin de compte, il y a eu beaucoup d'exilés des Zimbabwe à l'extérieur et vraiment, je rencontre dans toutes les institutions internationales à droite à gauche beaucoup de Zimbabwe de qualité. Je suis optimiste parce qu'en définitive, disons, la qualité des ressources humaines du Zimbabwe est telle que je crois que ce pays peut se relever.
Amara Issi, ancien ambassadeur ivoirien à l'ONU qui a bien connu Robert Mugabe. Au Cameroun, le procès de l'opposant Maurice Kamto a été reporté au 8 octobre après son ouverture ce matin à Yaoundé sous haute sécurité. Le président du MRC, ses alliés politiques et quelques militants de cette formation comparaissent devant le tribunal militaire pour en parler. John Lyndon, adjoint à Douala, maître Alice Com, avocate au barreau du Cameroun.
Eh bien, le procès a été reporté au 8 octobre, effectivement. Je crois savoir que ce sont les avocats de la défense qui ont demandé ce report parce que les conditions pour une audience ce matin n'étaient pas réunies. Ils ont demandé un report, le dossier n'est pas encore en état. Ils n'ont pas encore obtenu communication du dossier de procédure depuis le début, alors que c'est une obligation légale prévue dans le code de procédure pénale. On leur a donc promis qu'on allait leur communiquer, on allait leur donner la possibilité d'avoir communication d'une copie du dossier de procédure. C'est le minimum.
La France, les États-Unis et plusieurs autres pays réclament la libération de Maurice Kamto. Yaoundé va-t-il accéder à cette demande?
Vous me demandez de vous répondre pour savoir si Yaoundé, c'est-à-dire le président de la République, va enfin arrêter cette mascarade. Moi, je souhaite que par un élan de sagesse, il puisse se dire que vraiment ce procès est C'est un procès de trop, c'est un procès qui est illégal, c'est un procès qui n'apportera rien, ni au Cameroun, ni aux Camerounais, ni à l'image, ni même à lui-même. Mais je n'ai pas l'impression qu'il a pris cette voie-là. Je souhaite que la sagesse revienne et qu'il se dise qu'on arrête cette procédure. Surtout que la loi lui donne le pouvoir à tout moment d'arrêter les poursuites, de donner des instructions pour l'arrêter. Ce serait tout à fait légal. Mais je crois que je ne peux pas rêver non plus éveillé.
Il y a un autre procès qu'on semble faire à Maurice Kamto, c'est qu'il aurait été à l'origine, ou tout au moins lorsqu'on faisait la réforme du tribunal militaire qui désormais peut juger les civils. Est-ce que c'est ça l'effet?
Le problème, c'est que le tribunal militaire n'a pas le droit de gérer, de juger les civils. Il s'agit là d'un principe général du droit. Et les principes généraux du droit découlent de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ça découle de la charte des Nations Unies. Et ça constitue des principes généraux. Ça constitue ce qu'on appelle la loi internationale à qui on a donné au Cameroun dans la Constitution la primauté sur toutes les autres lois.
En d'autres termes, le tribunal militaire est incompétent pour juger Maurice Kamto.
Il est radicalement incompétent. Et nous avons des arrêts de la Cour suprême pour ça. D'ailleurs, c'est l'un des motifs de cassation imparable. Si vous arrivez à prouver que le jugement, l'arrêt d'une cour d'appel a violé le principe de la primauté de la loi internationale, a violé le principe de la hiérarchie des normes, rappelé dans le même code pénal à l'article 2, eh bien, la Cour suprême va casser et va vous interdire d'appliquer désormais ces lois-là.
Maître Alice Com, avocate au barreau du Cameroun.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Le Premier ministre du Soudan a rendu public les 18 membres de son gouvernement, dont 4 femmes. La priorité des priorités est de mettre un terme à la guerre et de construire une paix durable. L'autre défi sera de relever l'économie. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint à Khartoum le correspondant de VOA Afrique, Salah Mohamed El Hassan.
Oui, selon la liste qui est devant moi, il y a des représentants de toutes les régions du Soudan, du Nord, de l'Est, du Centre, de Kordofan, de Darfour, de toutes les régions en général. Mais on parle encore toujours de quotas entre partis politiques, surtout la nomination de M. Medeni Abbas qui a été contestée parce qu'il faisait partie de l'équipe pour parler des forces de liberté et de changement. Et puis, il y a un autre ministre qui a été contesté, qui a été enlevé de la liste parce qu'il avait des relations avec le parti du Congrès national de l'Omer el-Béchir. La liste comprend 4 femmes, dont la ministre des Affaires étrangères, Madame Asma Mohamed Abdallah, qui n'était pas dans les listes des forces de déclaration de liberté et de changement, mais qui a été choisie par M. Abdallah Hamdok lui-même.
S'agit-il des visages déjà connus ou c'est un gouvernement de rupture avec l'ère Béchir?
C'est un gouvernement de rupture avec avec le régime de Béchir, mais il y a des gens qui sont bien que nous, chacun dans son domaine.
Le Premier ministre Hamdok a parlé des conflits qui rongent les États du Darfour, du Nil Bleu et du Kordofan Sud. Est-ce qu'il a dit comment il compte les aborder?
D'abord, le processus de paix, la première priorité de ce gouvernement. Les 6 premiers mois seront consacrés à la recherche de paix, à des pourparlers de paix avec les mouvements et les factions armées de Darfour, de Kordofan, du sud de Nil Bleu. Et alors, là, c'est plutôt positif. L'atmosphère à Khartoum, tout le monde est content. Il y a même des petits groupes des jeunes qui sont sortis dans la rue pour célébrer, pour fêter.
Salah Mohamed El Hassan, correspondant de VOA Afrique à Khartoum.
Abdourahmane Dia avec vous. Je vous donne rendez-vous à 19h temps universel dans l'Amérique et vous. Depuis les années 60, des centaines de milliers d'Africains ont choisi les États-Unis comme patrie. Mais ce désir de vivre le rêve américain ne signifie pas l'abandon de ses racines africaines pour cette communauté estimée aujourd'hui à plus de 2 millions de personnes, selon l'Institut de recherche Pew. Cependant, la nécessité de préserver sa culture et celle d'une intégration réussie pour soi-même et celle de sa famille peut pousser à des choix difficiles. Comment réussir cet équilibre? Laissez vos numéros ou commentaires sur notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33.
L'Institut français de l'audiovisuel a annoncé avoir retrouvé les plus anciennes images connues de Miles Davis en train de jouer sur un plateau de télévision en France, séquence filmée le 7 décembre 1957. C'est un trésor qui vient de refaire surface, s'enthousiasme Lina, sur son site internet où figurent les fameuses séquences de près de 4 minutes. On y découvre le trompettiste âgé de 31 ans en costume noir avec une chemise blanche au sein d'un quinquette français avec lequel il venait d'enregistrer la musique du film Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle. Le film en format 16 mm a été retrouvé à l'occasion d'une opération d'inventaire au centre de conservation de l'INA en Ile-de-France, puis a été numérisé pour être mis en ligne sur le site de l'Institut. L'artiste jazz noir américain qui s'est éteint en 1991 est également à l'affiche d'un film documentaire qui vient de sortir aux États-Unis. Beach Brew est également le nom d'un double album sorti en 1970. Et nous allons nous quitter en écoutant Time After Time, titre d'un autre opus paru lui en 1989. Time After Time, Miles Davis, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Georges Léonard Sagno, à la console, Rob McLean, à la présentation, Eki Abadou. Ainsi va le monde aujourd'hui. Excellente suite de programme à l'écoute de VO Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.